France Culture.
Bienvenue à tous. Prenez place, nous poursuivons ensemble nos midis de culture à 13h. Je recevrai les architectes Dominique Jacob et Brendan McFarlane. Mais avant, un point sur l'actualité culturelle. Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Début avril, paraissait aux éditions Plein Champ un inédit de l'écrivain et ouvrier Georges Navelle, Contact avec les guerriers, écrit dans les années 40. Cette année, plusieurs de ses œuvres ont revu le jour, de Passage, son récit autobiographique de 1982 aux éditions de l'Échappée, à Près des abeilles, édité par Gallimard, avec une préface de Jean Giono, lui qui, parlant des écrits de Georges Navelle, les désignait comme les travaux et les jours d'un hésiode syndicaliste. Qui était Georges Navelle, né en 1904 et mort en 1993, et pourquoi ce nouvel engouement pour ses textes, c'est notre dossier du Point Culture du jour. Mattia Filice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conducteur de train et auteur de Mécano, paru chez POL en 2023, et vous avez notamment écrit, ainsi que Sylvain Prudhomme, une préface à la réédition de Parcours de Georges Navelle, initialement paru en 1950. Georges Navelle était un ouvrier, un écrivain, admiré par Colette ou encore Jean Giono, avec qui il partageait l'amour de la nature. Dans votre préface, vous parlez de Parcours comme d'un livre regorgeant de chemins en lacets, de routes arborées. Alors est-ce que pour vous, l'écriture de Navelle ne se contenterait pas de d'écrire la nature, mais la raconter aussi en fait en creux de son style?
Alors Navelle, c'est vraiment un écrivain singulier qui, dans toute son œuvre, se bonifie à la relecture. En fait, il est dans le récit, mais il est dans une œuvre composite qui raconte le travail et la nature, comme vous le dites, mais pas seulement. Et en fait, c'est une pensée dans le sensible, dans les sensations. Et là où il se bonifie à la relecture, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance de pouvoir du coup me poser mon regard plus longtemps sur son écriture, et on découvre des pépites, des phrases pépites que l'on avait omis précédemment. D'ailleurs, vous dites qu'il était travailleur et écrivain, mais il a fait tellement de métiers, il était tout le temps en train d'essayer d'échapper à la case dans laquelle on voulait l'assigner. Mmh. Et c'est quelque chose qui est extrêmement contemporain, car moi-même, je suis assigné à la case de conducteur de train potentiellement. Et lui, il voulait fuir ça, il voulait fuir cet enfermement, cette haine de l'enfermement qu'il a découvert dès le plus jeune âge.
Oui. Oui, justement, par rapport à l'enfance, en fait, dans Parcours, mais aussi Travaux, ce sont des récits autobiographiques et l'enfance prend une place importante, mais aussi une enfance brimée, il semblerait. Alors, on peut le dire, il est devenu plus tard syndicaliste, puis libertaire. Est-ce que pour vous, c'est dans l'enfance, justement, que s'est construit aussi cette réflexion politique?
Il est issu d'une famille de paysans prolétarisés. Et en fait, au départ, il découvre la culture par sa mère, dans la nature, la suivant dans la forêt, dans les champs. Et il se retrouve en effet brimé entre les murs de l'école, où en fait on forme un métier plus qu'à l'émancipation par le savoir. Mais il a la chance, entre guillemets, de traverser une période de l'après-guerre où en fait il y a toute une émulation intellectuelle où on a la volonté d'apprendre, mais pour changer le monde. Et c'est comme ça qu'il découvre qu'il a un cerveau comme les autres. Et finalement, c'est un autodidacte qui va, et pas seulement, parce que c'est aussi le fruit de plusieurs rencontres au sein du milieu ouvrier militant, qu'il va commencer à lire et à travailler la langue. C'est quelqu'un qui n'est pas arrivé naturellement dans l'écriture, qui a été poussé par un environnement et une période qui est aussi une grande période dans le monde de l'art avec le mouvement surréaliste.
Oui, comment vous liez justement le mouvement surréaliste à Georges Navelle?
En fait, il y a vraiment une question fondamentale et qu'on devrait tous se poser, c'est comment vivre. Et en fait, le mouvement surréaliste, un peu à l'image de Arthur Rimbaud, qui le reprenne à discrétion, se pose la question changer la vie. Et en plus, après la Première Guerre mondiale, parce qu'en fait, on est dans une société qui n'a proposé comme perspective que la guerre, des guerres qui sont toujours présentes, la question se pose aussi de transformer le monde. Mmh. Et pour le mouvement surréaliste, ces deux mots d'ordre, changer la vie, transformer le monde, ne font qu'un. Et en fait, Georges Navelle, il est imprégné de ça, et on le sent, toute une aspiration rabaldienne dans son écriture, mais en même temps qui est d'une grande humilité, à chercher toujours le mot le plus humble. Et oui, c'est comme de la petite broderie, son écriture, et c'est une adresse qui nous est faite. C'est comme s'il nous écrivait une lettre.
Ouais. Et par rapport justement à cette question de changer la vie, de modifier la vision de la vie, il y a cette phrase que vous citez aussi dans votre préface qui est prononcée donc par le frère de Navelle, « Le travail deviendra jeu au lieu d'être tâche ». Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut expliquer particulièrement bien la position de Navelle par rapport à l'écriture, par rapport à la vie, par rapport aux gestes aussi ?
Exactement. En fait, il découvre, parce qu'il passe d'un métier à un autre, il est tout le temps en train d'essayer de fuir. Et en même temps, il trouve parfois du merveilleux, parce qu'en fait, c'est une quête de l'enchantement. D'ailleurs, il le dit lui-même, la vie ne mérite d'être vécue que pour que l'on s'émerveille. Et en fait, il va apprendre à ralentir le geste, à essayer d'être attentif au temps présent, à boire du temps pur. Et c'est ça qui est important. Si on vit pas l'instant, eh ben, j'aurais envie de dire presque, à quoi bon continuer.
Et c'est vrai que la question du temps semble assez fondamentale dans son œuvre, donc le temps pur, vous venez de le dire, la peur peut-être aussi de gaspiller son temps, l'inquiétude aussi de ne pas avoir le temps d'écrire, et cette observation minutieuse, émerveillée du quotidien, du temps qui passe, donc, où s'ancre peut-être aussi la joie. Est-ce que pour vous, c'est là que se loge la poésie si particulière de Navelle ?
Oui, c'est-à-dire trouver du merveilleux dans tout geste, parce que c'est le fruit d'une réflexion, d'être conscient de ce que l'on est en train de faire. C'est aussi, il raconte dans ça, parce qu'il y a aussi sa correspondance. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi un inédit qui va bientôt sortir, ses contacts avec les guerriers aux éditions Plein Champ. C'est que, en fait, il arrive même dans la situation la plus, qui pourrait être nourri d'ennui, il parvient à trouver un petit trésor. Mmh. Et elle est là, la poésie de Navelle. Ouais. Et Navelle est d'une certaine manière, est navellien. C'est difficile de le définir autrement.
Mmh. Parce qu'il avait aussi cette angoisse donc de ne pas réussir à trouver le temps d'écrire.
Oui, cette angoisse, bah, on l'a un peu tous, c'est-à-dire on est cantonné à une position. Et lui, bah, tout au long d'une vie, il aura écrit que 4-5 récits. Et du coup, il a dû composer avec ce temps, au prix de grands sacrifices. Et c'est quelque chose qui, en fait, parce que bon, il se sentait proche des prolétaires, mais en même temps, il voulait pas être classé uniquement d'une manière générale. Et on est tous singuliers. Et en fait, c'est cette singularité qu'il essaye d'exprimer, lui, par l'écriture, et que tous aimeraient parfois exprimer par le biais d'autres moyens d'expression. Mmh.
Georges Navelle, on l'a dit aussi, c'est donc un homme qui nous apporte une fenêtre sur un autre monde, une autre époque, et pourtant, il revient aujourd'hui, il résonne. Alors, comment vous comprenez cette contemporanéité ?
J'aurais du mal à trouver une réponse, ça pourrait être que subjectif, mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus contemporain que jamais. J'aurais envie de dire extrêmement contemporain et terriblement contemporain, parce que les guerres sont toujours présentes, parce qu'on nous annonce des réarmements un peu partout dans le monde. Et lui justement, c'est un enfant de la guerre, et qui mais dans une période où il y avait aussi un idéal, il y avait une volonté farouche de bouleverser la donne, de changer tout ça.
Merci Mattia Filice.
Merci à vous.
Suite de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, l'Académie des Oscars modifie son règlement.
Oui, les membres de l'Académie des Oscars doivent désormais visionner tous les films nommés dans chaque catégorie pour pouvoir voter lors du tour final des Oscars, précise maintenant le règlement. On doit donc comprendre que jusqu'ici, certains votaient sans avoir forcément vu chacune des œuvres en lice. Pour s'assurer du sérieux des membres, l'Académie va désormais se servir de la plateforme réservée au visionnage des films sélectionnés pour la cérémonie, ou bien demander aux votants de préciser quand et où le film a été vu.
Et pour finir, le château d'Amboise est en cours de sauvetage.
Une partie de ses remparts menace de s'effondrer après un glissement de terrain, conséquence d'une importante infiltration d'eau dans le sol et qui menace l'équilibre du château royal. Les travaux démarrés le 10 mars et qui doivent s'achever fin juin ont permis de décaisser 3000 tonnes de terre, d'évacuer de l'eau et de stabiliser la structure. L'édifice est surveillé de près puisque la menace d'effondrement persiste. À noter que le patrimoine, de manière générale, est menacé par le changement climatique qui accélère les phénomènes pluvieux.
Je crois que nous allons en parler dans pas très longtemps. Merci beaucoup Sophie Catherine. Et on vous retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. Il est 13h et vous êtes sur France Culture.